Je suis heureux et reconnaissant de ce que vous m'accueillez au milieu de vous ce matin. Et je voudrais saluer chacun d'entre vous fraternellement, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, et puis ceux qui sont à distance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse pour chacun de nous sa parole. Je vous invite à ouvrir... Ah oui, peut-être juste un petit mot à propos de mon titre de... professeur émérite, ne pensez pas que ce soit un grade très particulier, ça signifie simplement que je suis à la retraite et que je continue à travailler un peu. Voilà, donc ça c'est pour ça qu'on dit je ne suis pas un professeur titulaire, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille à plein temps et qui est salarié, mais un professeur volontaire qui, après la fin de son mandat, continue à dépanner. On pourrait dire dépanneur plutôt que émérite, mais enfin bon, on aime les titres ronflants. Voilà. Alors je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Josué, et nous allons lire les premiers versets de ce livre de Josué. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous par ton esprit dans la vérité. Fortifie-nous, encourage-nous, redresse nos pensées pour qu'elles soient fidèles à ta parole. Merci parce que nous avons dans ta parole l'assurance d'être enseignés et exhortés par toi. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, assistant de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi, prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi, aie bon courage, en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi, prends courage, n'aie pas peur, ne sois pas épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, comme votre pasteur l'a redit, comme il me l'avait bien expliqué, vous attachez ces temps-ci au thème de la transmission, qui est un thème fort riche et important pour notre foi. Et parmi les usages qui nous ont été transmis et que nous souhaitons transmettre aux générations actuelles et futures, la lecture personnelle de la Bible est certainement de la plus grande importance. Cette lecture personnelle est évoquée dans l'Ancien Testament, le passage que nous avons lu. Elle est évoquée aussi dans le Nouveau Testament, dans les conseils que Paul donne à Timothée. Et nous la retrouvons jusque dans des chants d'enfants que vous avez peut-être chantés. « Lis ta Bible, prie chaque jour. » Prie chaque jour si tu veux grandir. Alors cette tradition, elle nous vient particulièrement de la Réforme. Les protestants sont connus ou étaient connus comme des gens qui lisent la Bible et qui connaissent la Bible. Le problème, c'est que nous ne sommes plus toujours, on peut le craindre, vraiment à la hauteur de cette réputation. Je ne parle pas seulement des protestants libéraux sociologiques, mais aussi de protestants parmi les plus pratiquants, les plus militants, des protestants évangéliques, comme nous voulons être. La seule statistique officielle que j'ai pu trouver date de 2010, c'est une enquête de l'IFOP, et cette enquête indique que 74% des protestants qui se disent évangéliques déclarent lire la Bible au moins une fois par semaine. Alors malheureusement, l'enquête ne permet pas de dire quelle serait la proportion de ces 74% qui lisent leur Bible au moins une fois par semaine, quelle est la proportion de ceux qui la lisent tous les jours. Les enquêteurs, peut-être, ne connaissaient pas suffisamment les consignes qui sont données et ils n'ont pas posé la question. Donc on peut s'interroger. On peut espérer qu'une bonne proportion de ces 74% qui lisent la Bible au moins une fois par semaine la lisent peut-être tous les jours. Alors sur cet important usage transmis, on pourrait dire cette tradition, j'espère que vous n'avez pas trop peur de ce terme de tradition, mais puisque vous parlez de transmission, il faut bien parler de tradition. Alors, il y a de mauvaises traditions, mais il y en a de bonnes. À propos de cette tradition, je vous propose ce matin d'examiner trois questions qui peuvent nous troubler ou qui pourraient peut-être même nous dissuader de répondre à l'invitation qui nous est ici adressée dans le livre de Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Alors, ces trois questions sont les suivantes, je vais tout de suite les indiquer. Premièrement, lire la Bible tous les jours, c'est au fond une habitude. Et est-ce vraiment digne de Dieu de lire sa parole par habitude ? Deuxième question, lire toute la Bible, comme le proposent les programmes de lecture journalière, ça nous expose à lire non seulement de beaux textes, encourageants, inspirants, mais aussi des textes, il faut bien le dire, pas très intéressants et peut-être même parfois troublants. Est-ce que c'est vraiment utile et édifiant de lire toute la Bible? Et puis, troisième question, Dieu promet à Josué la réussite. Quelle réussite pouvons-nous attendre de Dieu si nous lisons la Bible tous les jours? Avant d'aborder ces trois questions, on pourrait peut-être quand même se demander si c'est vraiment justifié de prendre cette parole qui est adressée à Josué pour nous exhorter, nous, à lire la Bible tous les jours. Josué est un responsable. C'est le plus haut responsable du peuple d'Israël. Alors, est-ce que cette exhortation que nous écoutons ce matin, si on la comprend bien, ne concernerait-elle pas plutôt les responsables, les pasteurs, ceux qui ont des charges dans l'Église? Est-ce qu'il est légitime de l'étendre à tous les croyants? Et puis, cette tradition de lire, étendue à tous les croyants, de lire la Bible chaque jour, n'est-ce pas une tradition assez récente dans l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire d'Israël et de l'Église? Ça ne fait que 500 ans qu'on entend dire que tout chrétien devrait lire la Bible tous les jours. Est-ce que nous ne serions pas à la remorque d'une de ces traditions humaines qu'on rajoute à la Bible? Alors je vais vous répondre tout simplement, oui, il y a un écart entre l'exhortation qui est adressée à Josué et celle que je vous propose de recevoir ce matin et à laquelle nous sommes souvent exhortés. C'est un écart important. Et jamais dans toute la Bible, il n'est dit une seule fois que chaque Israélite ou chaque chrétien devrait lire la Bible chaque jour. Jamais. Jamais. Parce que c'était tout simplement impossible. Avant l'invention de l'imprimerie, le livre était rare et cher, était copié à la main par des spécialistes. Il était tout simplement impossible que chaque croyant possède une Bible. Alors j'ai cherché un petit peu sur Internet pour essayer de voir quel pouvait être le prix d'un livre avant l'invention de l'imprimerie, mais j'ai pas trouvé. Alors peut-être que je ne sais pas assez bien chercher. Mais disons que, pensons à une Bible, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il fallait à peu près un an de travail à un ouvrier hautement qualifié pour réaliser une Bible. Alors vous voyez le prix que ça pouvait coûter. Et puis bien des gens ne savaient pas lire. Alors qu'allons-nous faire de cet écart? Cet écart entre l'exhortation adressé à Josué et nous, bien loin de nous faire douter de l'importance pour chacun de nous de lire la Bible, de la lire tous les jours, ça doit au contraire nous remplir de reconnaissance. Quel avantage nous avons sur les Israélites et sur les chrétiens de 15 siècles de christianisme. Nous avons tous une Bible. Nous savons tous lire. Nous avons donc tous un accès direct à la parole de Dieu. Un accès qui avait tant de prix pour les premiers protestants, tant de prix parce qu'on le leur interdisait, qu'ils étaient prêts à risquer la prison, à risquer les galères, à risquer leur vie, pour lire la parole de Dieu chez eux, à la maison. Alors donc, ne tirons pas de cet écart entre Josué et nous une raison de douter ou un prétexte pour notre négligence. Soyons plutôt émerveillés et reconnaissants. Alors on me dirait, on va être reconnaissant à Gutenberg. Oui, si on veut, mais voyez-vous, tout ce que nous gagnons avec les inventions, celles de Gutenberg et celles qui ont suivi après, ça la rend d'autant plus important pour nous, l'écoute et la méditation personnelle de la parole de Dieu. Car par le livre, et puis maintenant par bien d'autres moyens, par Internet, par les smartphones, ce sont tant d'informations, tant d'avis qui nous parviennent, utiles, inutiles, profitables, nuisibles. Et face à tous ces avis et toutes ces informations, il est essentiel que nous soyons nourris, édifiés, formés, fortifiés, corrigés par la parole de Dieu. Alors écoutons bien et recevons pour nous l'exhortation adressée à Josué. Alors, la première question. La lecture de la Bible, une habitude Quelle horreur! Alors je comprends bien les sentiments tout à fait louables, les sentiments tout à fait spirituels qui inspirent une sainte horreur de l'habitude. Parce que si notre piété n'est qu'une habitude, sans amour, elle est indigne de Dieu. Dieu qui nous a donné comme premier commandement de l'aimer. Le premier et le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et le psaume 119, qui dans l'Ancien Testament, c'est le grand psaume de la loi. C'est un psaume qui est tout imprégné, débordant d'amour de la parole de Dieu. Un psaume dans lequel s'exprime le désir, la passion, les pleurs, l'indignation. Je pleure toutes les larmes de mon corps en voyant qu'on n'observe pas ta loi. Dit le psaume au verset 136. Alors soyons clairs, le contact avec la Bible ne doit pas être seulement une habitude. Mais soyons aussi honnêtes, c'est bien aussi une habitude. Et je voudrais vous persuader qu'il est essentiel que ce soit une habitude. Parce que l'habitude, ça n'est pas rien. Pensez à la force impressionnante, la force terrifiante d'une mauvaise habitude. Une habitude dont on n'arrive pas à se libérer. Il y en a tant. Par exemple, c'est peut-être pas la plus grave, mais c'en est une aussi, la dépendance du tabac. C'est si difficile de s'en dégager. Malgré tout ce qu'on sait et tout ce qu'on nous dit sur les effets désastreux sur la santé. Alors c'est vrai que cette dépendance, elle ne tient pas seulement à la force de l'habitude. Il y a aussi une dépendance physiologique de la nicotine. Mais l'habitude joue aussi un rôle important dans cette dépendance. Parce que ce sont les mêmes gestes qu'on a l'habitude de reproduire au même moment de la journée, une sorte de rituel qui structure la vie. J'ai l'habitude, après le repas, de faire un mot croisé et de manger une barrette de chocolat. Mais j'aime bien ça. Alors, je ne crois pas que ce soit trop grave, si ça ne perturbe pas ma vie sociale. Mais vous voyez, on s'y habitue. Je pense à quelqu'un qui a l'habitude de fumer, mais c'est très difficile. De s'en dégager comme ça. Alors, quand on sait la force des habitudes mauvaises, bonnes ou neutres, pourquoi se priver de cette force? Et cela au nom d'une spiritualité plus élevée. Ah, le diable, il doit bien en rire dans son coin. Pas trop fort. Parce que c'est son petit secret à lui. Nous éloigner de la Bible en nous faisant croire que nous serions ainsi plus spirituels. Alors face à ce petit malin, je l'ai présenté comme un petit, mais c'est un grand malin, hein, faut pas rire avec lui. Mais celui qui sait si bien nous embrouiller, ben soyons simples. Oui. Lire la Bible tous les jours, c'est une habitude, une bonne habitude, une habitude structurante pour notre vie, une habitude que nous voulons conserver si nous l'avons prise, une habitude que nous voulons prendre si nous ne l'avons pas encore prise et que nous voulons reprendre si nous l'avons plus ou moins perdue. Dieu ne dit pas à Josué, lis la Bible quand tu en auras envie, quand tu en ressentiras le besoin, ou attends que le Saint-Esprit t'y pousse, et surtout, que cela ne devienne pas une habitude. Non, il dit simplement que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche. C'est beaucoup plus ordinaire. Pourquoi d'ailleurs opposer l'habitude et le désir, l'habitude et l'amour? On peut très bien aimer une habitude. y trouver du plaisir, s'y épanouir. Et pourquoi, au fond, cette méfiance, ce dédain envers l'habitude? Moi, je soupçonne un peu le fonctionnement de la société, ce qu'on appelle société de consommation, d'y être pour quelque chose. Parce que, d'un côté, la société de consommation nous tient par des habitudes. L'habitude de fumer qui profite aux marchands de tabac. Les habitudes liées au smartphone, ce petit appareil qu'on n'arrive pas à lâcher, parce qu'il nous dit constamment « ding ding, c'est moi, je suis là, regarde-moi, écoute-moi ». Mais d'un autre côté, pour vendre ces produits, il faut bien que le commerce éveille constamment notre intérêt, nos sens, nos passions. Un acheteur qui n'achète que ce dont il a vraiment besoin, et en réfléchissant bien, ben ça n'est pas vraiment intéressant. L'acheteur, il faut le convaincre d'acheter sur un coup de tête, sur un coup de cœur, lui proposer toujours du nouveau, toujours du changement, lui faire tourner la tête. Or, aux habitudes, pensez, c'est vraiment nul. Et voilà comment, en nous proposant toujours, constamment du nouveau, en fait, on nous attache à bien des habitudes que nous prenons sans nous en rendre compte. C'est l'inverse qui nous est proposé avec la lecture habituelle de la Bible. Je choisis une habitude parce que j'ai été convaincu que c'est une bonne habitude, utile, nécessaire pour la vie avec Dieu. Et c'est cette habitude qui va structurer ma vie spirituelle avec ces moments de passion, d'émerveillement, d'exaltation. Et puis, des moments de monotonie, de grisaille. Et aussi, des moments de trouble ou de déception. L'habitude sera là pour nous tenir. Et ainsi, l'émotion et l'habitude, nous ne les percevons plus à ce moment-là comme deux ennemis, mais comme deux bonnes amies qui se soutiennent et qui ont besoin l'une de l'autre pour nous accompagner dans notre cheminement avec Dieu. Deuxième question. Lire toute la Bible en 6 ans, par exemple, comme le propose le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Je ne sais pas si vous avez d'autres programmes, mais je ne veux pas faire la publicité spécialement pour un programme plutôt qu'un autre. C'est pas ça. Mais le fait de lire toute la Bible dans une période donnée, eh bien, cela nous expose à lire des passages peu intéressants, peu stimulants et certains d'entre eux plutôt déroutants pour la foi. Alors, par exemple, moi, je prends cet exemple de la Bible en 6 ans parce que c'est le programme que je suis pour ma lecture personnelle. À partir de samedi prochain et jusqu'à mercredi, ça va être des textes de loi de l'Exode, des lois civiles, Exode chapitre 21 à 23. Et là, on apprend, par exemple, comment régler le litige lorsqu'un taureau d'un propriétaire a frappé et tué le taureau d'un autre propriétaire. Qui est responsable? Qu'est-ce qu'on doit faire avec le taureau vivant? Qu'est-ce qu'on doit faire avec le taureau mort? Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire comment mesure-t-on la responsabilité lorsque le taureau tue un esclave, ou lorsqu'il tue un enfant, ou lorsqu'il tue un adulte? Et puis, à un autre moment, on pourra peut-être se trouver pendant 2 semaines entières avec les livres des rois ou des chroniques, avec l'histoire des rois de Juda, avec son cortège de guerre, de trahison, d'assassinat. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire de tout ça? Je vais vous proposer 3 réponses. D'abord, C'est vrai, tous les passages de la Bible ne sont pas propres à me donner une inspiration, une directive pour la journée, à nourrir ma prière. Et d'ailleurs, les concepteurs de programmes de lecture de la Bible suivis en sont bien conscients. C'est la raison pour laquelle ils alternent les textes. Ils ne vont pas nous proposer, par exemple, 2 mois entiers de lecture non-stop du livre du Lévitique ou des livres des rois et lire à la suite. Parce que vous prenez, si vous prenez les livres à la suite, vous aurez les livres des rois et les livres des chroniques. Vous aurez 2 fois. Hein, ça. Donc, on alterne. Et puis, d'autre part, dans ce petit livret que j'utilise et qui est diffusé par la Fédération protestante de France et par la Ligue pour la lecture de la Bible, dans ce petit recueil, on a prévu aussi de mettre un psaume pour chaque jour. Donc on a au moins une prière aussi, si l'autre texte est peu inspirant. Donc il y a bien des passages plus ou moins éclairants, plus ou moins stimulants pour la vie de la foi, et il faut en tenir compte dans le choix de ces lectures. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est bien préférable de suivre un programme établi, et si beaucoup de personnes dans la même communauté lisent le même programme, ça permet aussi d'avoir des échanges à ce sujet. Donc il est bien préférable de prendre un programme établi que de vouloir s'établir soi-même son programme. Deuxième réponse, ces passages moins intéressants, moins stimulants, sont quand même là. Et si nous croyons que la Bible est bien la parole de Dieu dans son entièreté, ces passages doivent quand même nous dire quelque chose sur les intentions de Dieu à notre égard en communiquant sa pensée par la Bible. Parce qu'on voit que la pensée de Dieu nous est communiquée de manière différente, sous diverses formes. Elle nous est communiquée sous la forme de récits, elle nous est communiquée sous la forme de lois, sous la forme de prophéties, sous la forme de prières, sous la forme de proverbes, sous la forme de débats entre sages qui ne sont pas d'accord sur la façon de comprendre un événement. Et tout cela nous confirme que l'intention de Dieu dans la Bible, ce n'est pas seulement d'éveiller en nous des émotions religieuses, bien sûr, c'est important et la Bible le fait, grâce à Dieu, mais c'est aussi, Dieu a d'autres ambitions pour nous, il veut former notre discernement, il veut nous initier à sa pensée. Et ça ne s'apprend pas en répétant simplement quelques belles phrases. Répétons les versets, bien sûr, mémorisons-les, mais Dieu a aussi une autre ambition pour nous. Il y a un travail de fond, c'est du sérieux, et une formation sérieuse, ça comprend toujours des éléments rébarbatifs. Ce n'est pas le professeur qui le contestera. Je donne des cours d'hébreu, ben, il y a quand même pas mal de choses rébarbatives à apprendre si on veut pouvoir profiter de la Bible dans sa langue d'origine. Il y a des éléments dont on ne sait pas vraiment à quoi ils vont servir. On se dit, ben, pourquoi on me demande d'apprendre ça? Pourquoi on me demande de lire ça? Maintenant, d'ailleurs, il y a des gens qui pensent qu'il faudrait que les enfants sachent toujours pourquoi on leur apprend les choses. Malheureusement, il faut savoir les choses avant de savoir pourquoi on les apprend. Mais enfin, bon, laissons la question. Alors, la question qui se pose vraiment, c'est la suivante. Est-ce que nous aimons assez Dieu pour accepter son programme de formation? Oui, nous faisons assez confiance aussi. Et puis, troisième réponse, les difficultés de la Bible nous montrent que nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin des messages du dimanche matin. Nous avons besoin aussi des autres activités de l'Église qui sont conçues pour nous aider à mieux comprendre ensemble la Bible et d'autres programmes. Et plus nous sommes assidus et sérieux dans notre lecture personnelle de la Bible, avec ses passages difficiles, et plus alors nous verrons l'intérêt des activités communes de formation. Troisième et dernière question. Quelle réussite ? N'abandonne pas la lecture de la loi, dit Dieu à Josué, c'est alors que tu réussiras. Josué avait une mission particulière à remplir. Et je pense, en tout cas j'espère, que personne d'entre nous ne s'imagine investi d'une telle mission. La Bible nous montre que ça ne peut pas être le cas. Il se trouvait à la tête d'un peuple qui devait conquérir sa terre. Il devait mener une armée, s'emparer du pays de Canaan, avec la consigne de tuer tous les habitants qui lui tomberaient sous la main. Comment Dieu a-t-il pu ordonner une chose pareille ? Voilà une question qu'il nous faudra laisser de côté ce matin, mais c'est une question qui reste et qu'il est important aussi de se poser. Contentons-nous de nous dire, de dire que cette mission était exceptionnelle et que, Dieu merci, ce sont d'autres directives que nous avons reçues de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous entendons les paroles encourageantes adressées à Josué, « Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, je ne t'abandonnerai pas, sois fort, sois courageux, tu réussiras. » Bon, il me semble que, assez spontanément, nous pensons à tout ce qui peut nous préoccuper. Peut-être à des études à réussir, un emploi à obtenir ou à conserver, un problème de santé, plus ou moins grave. Et jusqu'à quand va durer cette pandémie, ce confinement ? Comment vais-je m'en sortir ? Et puis la réussite dans la vie de nos proches. Alors c'est sûr que Dieu s'intéresse à tout cela, puisqu'il s'intéresse à chacun de nous et à tout ce qui nous concerne, et que nous pouvons toujours lui demander d'intervenir dans les situations qui nous concernent. Mais il ne faudrait pas en déduire qu'il suffirait de lire la Bible tous les jours pour que tout nous réussisse, comme par enchantement. Parce que ça, ce serait plus de la magie que de la foi en Dieu. Et cela nous détournerait en fait de l'essentiel. Les promesses adressées à Josué, elles se rapportent à une mission. Et la question que nous devons nous poser lorsque nous écoutons les paroles qui ont été adressées à Josué, c'est quelle est notre mission ? Alors, comme il est question de conquête dans le texte, nous pouvons être attirés par une transposition symbolique, la conquête spirituelle. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai en possession. Pourquoi pas ? Parce que le thème n'est pas absent du Nouveau Testament. Mais la transposition symbolique, c'est toujours un peu risqué, parce qu'avec ce procédé, on pourrait dire en fait n'importe quoi. Et si nous voulons nous concentrer sur ce qui fait le cœur de notre mission, le cœur de notre mission chrétien, de chrétien, en clair, sans transposition, eh bien la réponse, elle ne fait aucun doute. Et elle ressort de tout l'enseignement du Nouveau Testament. C'est ce qui est appelé la sanctification, c'est-à-dire vivre une vie conforme à la pensée de Dieu. Non pas seulement être des gens plutôt gentils et honnêtes, qui ne font de mal à personne, bon, c'est déjà bien, hein, mais ce que Dieu attend de nous et ce qu'il est prêt à faire en nous par l'action de son esprit, c'est que nous reflétions les qualités de Dieu, la personne du Christ, son amour, sa vérité, sa pureté, Et c'est à ça que sert la Bible. Comme le dit Paul à Timothée, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Vous connaissez peut-être même la référence de ce texte, 2 Timothée 3, 16. Et voilà la réussite essentielle qui nous est promise et que nous devons viser. Et c'est aussi dans ce but qu'est envisagée la diffusion de l'Évangile. Non pas exactement « faites la conquête, emparez-vous de territoire », mais faites des disciples. Faites des disciples de Jésus en leur enseignant à faire tout ce qu'il a prescrit. Et quand Jésus dit à ses disciples « demandez et vous recevrez », n'est-ce pas d'abord cela qu'il nous engage à demander et à recevoir? On a parlé, le premier chant, c'était le Dieu de l'impossible. Et nous changer, est-ce que ça n'est pas mission impossible? Eh bien, demandons à Dieu de réaliser cette mission impossible, parce que là, on est vraiment dans l'axe de ce que Dieu nous promet et attend de nous. Alors, bon courage. Soyez forts. Soyez courageux pour lire la Bible tous les jours et pour vous engager et pour persévérer dans le programme de rénovation que Dieu lui-même veut accomplir en chacun de nous, en vous, par son Esprit. Il ne vous laissera pas, il ne vous abandonnera pas. Amen.